Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Georges Berginia, maire de Die. Bonjour.
Bonjour.
Et avec moi également Yves, bien connu maintenant hein, sur l'antenne.
Bonjour.
Salut à toi. Nous sommes ensemble pour passer un petit temps, histoire d'évoquer en long, en large, en travers peut-être la mairie de Die, la ville de Die, la vie dans la ville de Die. Et pour cela, on a un peu récolté à droite et à gauche, Yves, un certain nombre de questions que soit des citoyens se posent, soit des choses qui sont dans l'air du temps un petit peu. Donc, avant de commencer, Monsieur Berginia, je vous inviterai volontiers à nous faire un petit point comme ça de comment se passe pour vous, selon vous, du point de vue de la mairie, cet été 2012, autant d'un point de vue touristique que de la vie de la cité.
Eh bien, disons que, comme chaque année, cette période tient ses promesses. On a du monde. Il y a beaucoup de touristes qui sont arrivés. Les vendredis de Die fonctionnent bien. Les deux qui ont eu lieu ont fait le plein. Il y avait beaucoup de monde. Autant de touristes que de Diwa, d'ailleurs, qui attendent maintenant ce rendez-vous qui est un petit peu incontournable. Autrement, eh bien, comme il fait beau, les touristes sont heureux. Et les Diwa aussi. Quelques petits soucis à la piscine qui fonctionnent très bien, puisqu'on a jusqu'à 600 passages par jour à la piscine. Et comme il y a beaucoup de monde, on a aussi quelques petits soucis d'hygiène, malheureusement, puisqu'on retrouve quelques excréments, quelquefois, dans les bassins, ce qui nous oblige à fermer, soit momentanément, soit, comme ça a été le cas la semaine dernière, de fermer 2 jours et demi pour tout nettoyer, tout désinfecter. Mais en dehors de ça, une très bonne fréquentation, le camping est plein, comme l'ensemble des campings, je pense, aussi sur Die. Donc voilà, la saison bat son plein et on peut s'en réjouir.
Vous avez senti, comme un certain nombre d'autres justement commerçants liés au camping ou directement au tourisme, avez-vous senti un démarrage quand même de saison un peu lent?
Ça paraît toujours un petit peu lent le démarrage. Il me semble quand même que cette année, contrairement aux autres années, le mois de juin a été plus important que d'habitude. Il y a eu plus de touristes dans les campings que d'habitude. Alors après, les commerçants nous diront s'ils en ont eu une répercussion directe, en juger quand même par les terrasses des cafés, les restaurants, les files d'attente dans les magasins. On a quand même l'impression que les choses fonctionnent plutôt bien pour la saison.
D'un point de vue gestion pure pour la ville, comment se passe cet afflux de personnes ?
Ça nous oblige, si vous voulez, à renforcer énormément les équipes techniques. On remplace tout le personnel du service technique par des emplois saisonniers pour que le nettoyage, pour que les aides aux associations pour les différentes manifestations, pour que tout puisse bien se passer. Donc on renforce l'équipe municipale pendant cette période-là, bien sûr.
Alors, une fois ce petit bilan de début d'été terminé, nous avions donc, je le rappelais en introduction, un certain nombre d'éléments que nous aimerions un petit peu évoquer. Alors peut-être commencer avec les projets en cours, les grands projets municipaux qui arrivent pour bientôt. Yves, peut-être tu voudrais commencer.
Oui, je voulais savoir où vous en étiez sur ces avancées d'extension de la zone artisanale de Chamarges.
Eh bien là, si vous voulez, sur cette zone artisanale, les choses avancent bien. Puisqu'on espère pouvoir commencer à être en mesure d'avoir des parcelles qu'on pourrait promettre à des préventes en fin d'année prochaine. Les entreprises qui sont intéressées maintenant vont pouvoir on va pouvoir aller un petit peu plus loin avec elles dans leurs besoins et dans la surface dont ils ont besoin. Le problème des tulipes a été réglé, enfin. Donc elles ont été arrachées une par une. C'est un travail important.
Effectivement, je vous avais vu à la tâche à l'époque.
Voilà, oui, oui. Alors j'ai fait une participation pas très longue, mais je tenais à aller enlever quelques tulipes quand même pour pouvoir après pour pouvoir participer un petit peu à ces choses-là. Donc maintenant, ces tulipes sont stockées, elles sont mises correctement, elles sont stockées au frais et elles seront réimplantées, replantées donc dans les terrains de la communauté des communes à l'automne au Martouré.
Peut-on connaître le montant de cette opération, par exemple ?
Alors, le montant de l'opération aujourd'hui, vous savez que c'est la communauté de communes donc, qui gère ce dossier-là. Je ne m'avancerai pas sur des montants aujourd'hui parce que bon, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas vous donner un chiffre qui serait qu'une estimation. Il faut savoir quand même qu'on travaille, la mairie de Die suit de très près, bien sûr, ce dossier. On a des réunions régulières avec la communauté des communes, mais que c'est la communauté des communes qui a la compétence zone artisanale. Donc, c'est pour ça que tout ce détail-là, voilà, je le suis de près, bien sûr, mais je ne vais pas vous donner de chiffres qui seraient que des estimations.
Et concrètement, ça représente quelle surface en totalité, c'est-à-dire la totalité de cette aire jusqu'au pont ?
Alors, on va faire, si vous voulez, il va y avoir deux zones, la zone nord et la zone sud, qui sont à peu près de 4-5 hectares chacune. Donc, la première zone se fera donc au sud et pour 4-5 hectares aménager et donc d'installation pour les installations d'entreprises.
Alors vous avez évoqué ces entreprises, des entreprises peut-être prévues dans l'appel d'offres dans la construction, mais peut-être aussi des entreprises qui ont déjà choisi un emplacement.
Alors, en tout cas, qui ont déjà posé des options et donné leurs besoins. Donc, effectivement, on a deux, trois entreprises. On a une scierie qui a déjà, en accord, bien sûr, avec la communauté de communes et la mairie, déjà une option sur une parcelle. On a la CUMA aussi de Chamarges qui va vraisemblablement s'installer sur cette zone-là. On a après un certain nombre d'entreprises qui espèrent venir pour pouvoir se développer.
Et c'est vraiment entreprise et il n'y aura pas de magasin ?
Aujourd'hui, si vous voulez, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir une entreprise qui fasse du commerce. Ce n'est pas une impossibilité.
Et ma question portait aussi sur, évidemment, des supermarchés. Ça avait été les grandes craintes d'Ioise au moment à l'arrivée du troisième supermarché localement. Y en aura-t-il un quatrième ?
Pas que je sache, mais peut-être que vous allez me donner un scoop.
Ah, pas du tout, non, c'était une vraie question.
Alors, si c'était ça, votre question par rapport à la zone artisanale, pas du tout.
Eh bien, on va passer d'un côté de Die à l'opposé. C'est pour ça que je citais tout à l'heure l'aire de Champ-Queyras, le quartier de Champ-Queyras. Là aussi, il y a un gros projet municipal. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ?
Là, sur ce dossier, on avance à grands pas. Donc là, c'est un dossier particulièrement ambitieux puisqu'il s'agit de 225 à 250 logements sur 10 ans. Donc c'est quand même une grosse opération immobilière. On a déjà, donc sur cette opération, on a communiqué énormément avec la population. On a fait pas mal de réunions avec la population, avec les personnes concernées, c'est-à-dire les riverains, mais aussi des investisseurs. Et puis on a dans cette zone aussi, dans l'entrée de la zone de Champ-Queyras, on va avoir la maison de santé pluridisciplinaire qui, elle, va rassembler médecins, kinés, infirmières, spécialistes, j'espère le plus possible.
Ouais, une sorte de gros pôle, on avait un peu
pôle médical.
Ça. Voilà, médical indépendant.
Voilà, et donc ça, c'est un gros projet qui est aussi important. Autant aujourd'hui, il n'y a pas une urgence immédiate dans les 2-3 ans qui viennent, mais si on veut préparer, comme Champ-Queyras, les 10 prochaines années, je crois que c'est important de travailler sur ce projet de maison de santé pluridisciplinaire, en lien bien sûr avec l'hôpital, puisque l'hôpital sera partenaire, il y aura des liens directs avec l'hôpital de Die. Donc c'est un gros projet pour les Diois.
Pour aller plus concrètement dans le projet, de quel type seront les habitations ? Est-ce qu'il y a une vocation un peu écologique derrière, peut-être un éco-quartier, ce genre de choses ? Ou est-ce que c'est un appel à promoteurs indépendants ? Comment ça va se passer ?
Alors c'est complètement un éco-quartier. Donc, si vous voulez, ce Shankaras, il y aura une mixité, mixité dans tous les sens, c'est-à-dire mixité des âges, mixité des moyens, puisqu'il y aura de la location, de l'accession à la propriété et de la vente directe. Il y aura aussi une mixité dans l'architecture, avec quelques petits pavillons, des petits collectifs. On parle plus d'un éco-quartier et de logements dans un parc, hein, parce que la priorité sera faite pour garder la végétation. Et bien entendu, le développement durable, il sera prioritaire. Et les promoteurs avec qui nous discutons aujourd'hui sont très motivés pour faire des constructions de développement durable dans les dernières normes qui se font aujourd'hui.
Donc là, on parle bien d'un quartier entier qui appartient à la municipalité. Vous avez donc, vous commencez à écrire un cahier des charges précis avec des matériaux précis.
Alors,
est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu une idée ?
Alors, on est en train de faire un cahier des charges sur ce qu'on veut comme sur le principe. Après, c'est chaque promoteur qui va nous faire des projets. Par exemple, on est en train de travailler avec un investisseur qui va, à partir du cahier des charges qu'on va lui établir, qui va faire un concours d'architecte et qui va ensuite, on aura à choisir la solution qui nous paraîtra la plus intéressante et la plus correspondante au cahier des charges.
Pardon, je voulais voir, c'était par rapport à l'urbanisation de ce quartier que vous parlez de cahier des charges ou du bâtiment même
Sur les deux, parce que si vous voulez, l'urbanisation, elle va être travaillée avec les déplacements doux, avec un lien, je pense, demander à ce qu'il y ait dans la zone, puisque c'est une ZAC, hein, zone d'activité concertée. Donc on va établir... dans la modification du PLU, on va modifier le PLU pour déterminer la zone. Et cette zone, on la fera vraisemblablement, si c'est nécessaire, venir jusqu'en centre-ville pour prévoir l'aménagement des déplacements jusqu'au centre-ville. Donc dans l'urbanisme, dans l'urbanisation et les circulations, on va travailler ça. Il y aura vraisemblablement des petits jardins aussi qui seront avec certains collectifs, des jardins familiaux. Et il y aura un cahier des charges pour les constructions, bien sûr. Donc j'ai déjà visité avec certains promoteurs des bâtiments, des petits collectifs. Ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire aujourd'hui. Et je reconnais que c'est assez impressionnant sur la qualité des matériaux, ce qu'on peut obtenir soit en isolation phonique, mais aussi en isolation thermique avec des petites chaudières collective, enfin semi-collective. On ne peut pas imaginer de faire une chaudière collective à bois pour l'ensemble, parce que les 225-250 logements vont se faire petit à petit dans les 10 ans. Donc on ne peut pas dimensionner une chaudière pour 250 logements sur 10 ans. Mais par contre, j'ai vu que les promoteurs savaient parfaitement faire pour un petit collectif de 20 ou 30 logements, savaient parfaitement faire des chauffages au bois qui étaient assez performants et qui donnaient toute satisfaction. Donc ça fera partie, bien sûr, du programme.
Donc une priorité au chauffage au bois.
Bien sûr.
D'accord. Et au pain local ?
Ça sera prioritairement le plus local possible, dans la mesure du possible.
Dernière question concernant cet éco-quartier. Qui dit éco-quartier dit, vous l'avez dit, une gestion différente de la production d'énergie. Mais y a-t-il aussi une gestion particulière concernant le traitement de l'eau et puis pourquoi pas vers d'autres types de production énergétique, je ne sais pas, le solaire, la méthanisation des déchets, comment cela va se collecter, etc.
Alors si vous voulez, par rapport à l'eau, il y aura dans le cahier des charges une demande importante à ce qu'il y ait un chauffage d'eau solaire. Ça, on sait faire et c'est assez performant. La production, j'ai vu avec les promoteurs, la production d'électricité n'est pas aujourd'hui aussi économiquement fiable et ni écologiquement fiable non plus. Enfin voilà, je veux dire, on regardera, mais on ne va pas s'y précipiter. Pour ce qui est des autres...
Les eaux usées ou les déchets ?
Alors les déchets, la communauté de communes, on travaille... pas mal sur, on réfléchit énormément en ce moment sur du compostage semi-collectif, puisque il y en a bientôt un qui va être inauguré à Pluviane. Donc voilà, ça c'est des choses qu'effectivement on travaillera dessus, et si on peut en mettre, il n'y aura aucun problème, bien sûr.
Et pour le réseau d'eau, là, branché directement en station d'épuration, ou y aura-t-il un premier traitement propre au quartier, comme ça se fait souvent ?
Eh bien, si vous voulez, là, c'est les spécialistes qui vont nous faire des propositions les plus judicieuses par rapport à ce traitement.
Yves ?
Oui, je voulais venir par rapport à la picocentrale de Romeyer. Je vous avais vu la signature de cette convention avec la ville de Romeyer. Et est-ce qu'il y a un lien possible avec Chanquera, justement, au niveau de la fourniture en électricité ? Et par rapport à l'eau, est-ce qu'il y aurait aussi une possibilité de mêler les deux ?
Alors, par rapport à la fourniture d'électricité, non. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique de l'électricité et on vend à RDF immédiatement. Il n'y a pas de projet de consommation directe de la production. Mais ce qui est prévu avec la mairie de Romeyer, c'est de faire une picocentrale, effectivement, sur la canalisation d'eau, donc sur les quantités d'eau qu'on utilise et pas au-delà, et de fabriquer de l'électricité, de la vente de RDF. Donc c'est une manière aussi quand même d'essayer, autant la ville de Romeyer que la ville de Die, mais de compenser un petit peu les consommations énergétiques en fabriquant un petit peu nous-mêmes de l'énergie.
Peut-on imaginer le même type de projet sur les fonds d'eau, par exemple ? C'est-à-dire là où arrive l'eau à Die ?
Alors, si vous voulez, le projet qu'on a quand même sur le RAIS, c'est qu'on a commencé l'an dernier de refaire le captage. Donc maintenant, on récupère l'eau dont on a besoin. Donc on a énormément amélioré. Il y avait beaucoup de pertes sur AI, donc ça c'est fait. On a fait l'an dernier le recaptage et un dessableur avec 300 mètres donc, de canalisation. Cette année, on fait 1000 mètres de canalisation et on va arriver comme ça jusqu'à Die. Donc ça nous fera un peu plus de 6 km de canalisation. Et ensuite, sur Die, on va faire deux réservoirs à plat dans une partie haute de la ville pour pouvoir, à terme, desservir toute la ville par gravitation.
Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça pourrait, dans le même projet, être équipé avec une turbine ? Parce qu'on parlait de la picocentrale.
Alors,
de Romeyer.
Si vous voulez, on est en train de faire des études quand même plus fines. Sur le principe, on est d'accord avec Romeyer pour travailler ensemble. On a fait les premières études qui sont encourageantes. Maintenant, il faut quand même affiner pour voir si à terme, c'est quand même, s'il y a une petite rentabilité, on sait bien qu'on ne va quand même pas rivaliser avec les grandes centrales hydroélectriques. Il faut voir aussi, malgré tout, si le temps de fonctionnement d'une picocentrale et son investissement, s'il y a un retour raisonnable avant d'imaginer d'aller plus loin sur d'autres quartiers. Mais après, si les choses fonctionnent bien, pourquoi pas sur d'autres quartiers ou sur d'autres installations.
Oui, d'autant plus que c'est un projet qui nécessite des subventions ou des financements en dehors de la municipalité, du département ou de la région, je suppose.
On fait appel à quelques demandes de subventions, mais ça ne va quand même pas chercher très loin, hein, quand même.
Oui, d'où la difficulté de se mettre sur
ce projet. Les subventions, vous savez, aujourd'hui, quel que soit le dossier qu'on sorte, il est quand même relativement peu subventionné. C'est pour ça qu'il faut voir quand même s'il y a un retour sur investissement raisonnable pour pouvoir imaginer après de développer ce dispositif.
Dernier grand projet que nous allons évoquer avant de passer à d'autres types de sujets, ce sont les travaux de la place de la République. Alors là, tout le monde l'attend. Il y a eu là aussi des longs débats, des levées de collectifs. Tout un tas de choses soit imaginées, soit réellement pensées autour de cette place de la République qui doit, on le rappelle, être refaite principalement pour son réseau d'assainissement et profiter pour refaire aussi, lui refaire sa façade, comme on dit. Où en est-on? Est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous décrire un petit peu où en est le projet, sachant qu'il va attaquer, hein, on rappelle, dans le courant de l'hiver?
Voilà, donc si vous voulez, le projet de des places, lui avance. Hein. Alors c'est vrai, vous avez raison de dire que ça... On a beaucoup communiqué dessus, on a fait beaucoup de réunions, mais il y a eu beaucoup de réactions de toutes sortes. Il a fallu un certain temps pour que certaines personnes entendent que les arbres ne seraient pas coupés. On va démarrer, je pense, comme prévu, courant novembre, puisque on a dû décaler un petit peu à cause de, ben, des délais qui ont été nécessaires à cause des fouilles, hein, puisque on était, compte tenu de notre sous-sol, on est obligé de faire un certain nombre de recherches, de fouilles. En dehors de ça, le reste n'a pas été changé, c'est-à-dire que, en principe, pendant cette période-là, le marché se tiendra place de l'évêché et on neutralisera les travaux en juillet et en août 2013 pour que les festivités, les fêtes et autres puissent se dérouler simultanément. Là où il y aura eu les fouilles, on refera les réseaux, humides, secs et tous les réseaux. Et puis après, on refera la surface de la place. On refera bien sûr une fontaine. Et on fera des aménagements qui sont conformes aux derniers plans qui ont été diffusés et qui sont maintenant un petit peu connus.
En deux mots, on peut rappeler la forme un petit peu que va prendre la place, où va passer la route, etc.
Alors, si vous voulez, on ne parle plus de route. D'abord parce qu'on est dans une zone de rencontre. Donc il n'y a plus de mobilier urbain qui trace une route. Donc ça, c'est une chose importante. Et c'est seulement le mobilier de la place qui va contraindre les voitures qui seront tolérées à pouvoir circuler. Donc si vous voulez, en gros, aujourd'hui, le devant de la cathédrale sera le lieu festif de la place, en gros.
Et, donc bien matérialisé.
Bien reconnaissable, on va dire. Mm-hmm. Et il y restera quand même donc, un certain nombre de places de parking vers la sous-préfecture. Et tout le long des commerces, des arrêts-minutes pour les gens qui viendront faire leurs courses. Et puis l'hiver, la place sera un petit peu élargie en stationnement pour arriver à mettre un peu plus de 50 places de voitures. Et d'ailleurs, cette année, pendant la période estivale, on a retracé la place en tenant compte un petit peu de ce que ce sera une fois qu'elle sera terminée, pour que les Lillois commencent à s'habituer à se garer dans un autre sens. Voilà. Et apparemment, ça a choqué personne. Tout le monde s'est mis dans les cases et j'ai pas eu de pétition. Dites, tout arrive, a dit...
Vous parlez de mobilier urbain sur cette place, ça sera des bancs?
Voilà, ça sera... Alors en mobilier urbain, ça sera donc une fontaine qui sera le long de la cathédrale pour mettre en valeur la longueur de la cathédrale.
Ça sera toujours une fontaine sèche, le principe de la fontaine sèche?
Non, ça sera une fontaine style un petit peu, on est dans la montagne, donc les bachas, on sait ce que c'est en montagne. Ça sera plus pour rappeler un petit peu ce style de fontaine-là. Alors après, ça sera quand même un petit ruissellement. On n'aura pas une fontaine en hauteur avec style classique. Ça sera, une architecture plutôt contemporaine, mais qui respectera bien le style de la place.
Et je voulais justement savoir, parce que dans les rues, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, c'est dommage, il n'y a plus de fontaine qui coule là dans les rues habituelles ». Donc je voulais savoir, est-ce que c'est par souci d'économie d'eau ou c'est pour justement cette alors, future fontaine
alors
qu'on préserve ?
C'est pas par souci d'économie spécialement. Non, c'est qu'il y a des fontaines qui ne sont pas en eau aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont en panne et que, place du marché, la fontaine va être restaurée et remise en valeur telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on aura bien une fontaine dans cet endroit-là. Les autres fontaines d'Andy fonctionnent, et quand elles ne fonctionnent pas, c'est qu'elles ont été arrêtées pour des autres travaux, mais pas spécialement par économie.
Dans le mobilier urbain qui est envisagé sur cette place, il n'a pas été évoqué, et ça, vous avez eu aussi plusieurs débats là-dessus, la question du toilette publique. Va-t-il être remis ou disparaît-il de cette place?
Alors, les toilettes publiques disparaîtront de cette place, oui, bien sûr. Donc, on a par contre un projet projet, on a plusieurs projets donc, de rénovation et de création de toilettes tout autour de la place. Mais il n'y aura pas de toilettes publiques sur la place.
Oui. D'ailleurs, le plus proche, il serait à combien, par exemple? Vous savez à quel type d'emplacement? Non, parce que c'est vrai que c'est important.
Aujourd'hui, le plus proche est Place de l'Évêché.
Place de l'Évêché.
Donc, c'est quand même pas très loin, quand même. C'est la place qui est tout à côté. Ensuite, aujourd'hui, les toilettes les plus proches... Alors après, ça dépend si on aime la pente ou si on aime le plat. Donc, il y a Saint-Pierre et il y a le parking de Méros. Donc, voilà, pour l'instant... Mais c'est vrai qu'on aime bien faire une affaire de toute chose. Quand on voyage un petit peu, eh bien, des toilettes, on en trouve très peu. Donc,
c'est vrai.
Alors, on essaiera quand même de... On a un projet de toilettes publiques au niveau de Saint-Marcel. Donc ça, voilà, ça, si vous voulez, le centre-ville sera quand même bien quadrillé par rapport à ça. Hein. Et puis, on a des projets d'autres toilettes qu'on est en train de travailler par rapport à des besoins spécifiques.
Voilà, terminé cette partie travaux, projets en cours. Un point très important en ce moment et qui, là aussi, soulève beaucoup de questions, c'est un petit peu la question de la politique culturelle à Die, dans la ville de Die, peut-être même du point de vue de la mairie. Alors là, nous avons relevé plusieurs points. Par quoi pourrait-on commencer? Peut-être la partie vraiment culture propre, vie musicale, concert, festive. Alors là, il y a eu récemment une grosse école de cirque genevoise qui est passée à Die et qui s'est vue refuser la possibilité d'une prestation, ce qui a ému quand même pas mal de gens. Est-ce que vous auriez un mot à dire là-dessus?
Alors si vous voulez, traditionnellement, pendant la période estivale, c'est-à-dire juillet-août, on ne donne pas d'autorisation à des cirques de s'installer sur le parking de Méros. Vous savez bien qu'on n'a pas beaucoup de parking et que si on laisse s'installer pendant cette période-là un cirque à Méros, eh bien on se pénalise énormément sur les parkings, sur les possibilités aux gens de passer et de s'arrêter. On a déjà eu par le passé, il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans, un cirque aussi qui voulait s'installer à tout prix, qui avait été à l'époque rejeté donc du parking de Méros et qui avait essayé de s'installer dans la zone artisanale d'une façon un petit peu sauvage. Voilà, je veux dire que c'est un problème récurrent, le problème des cirques pendant la période estivale.
Bonne question. D'ailleurs, y aurait-il d'autres espaces envisageables? Vous venez de citer cette partie de zone artisanale qui est effectivement assez libre et auquel d'ailleurs les Diwan n'ont pas vraiment l'habitude d'aller. Et puis, il y a cet autre emplacement qu'on a pu profiter en fin d'année avec le cirque de l'école de Chabestan qui avait fait donc un cirque sur cet emplacement. C'est chouette aussi. Est-ce que ce sont des pistes qui peuvent s'envisager?
Toutes les pistes peuvent s'envisager. Après, il faut que ça soit dimensionné aux besoins du cirque.
Ces espaces sont-ils proposés?
Ces espaces ne sont pas forcément proposés systématiquement parce que les gens ne nous les demandent pas d'abord. Et puis après, il faut voir, je ne suis pas sûr que le cirque auquel vous faites allusion pouvait se glisser là où il y avait le cirque de Chabestan. Mais voilà,
moi je peux répondre tout à fait. Ce cirque, ce n'est pas un cirque de toute façon. Déjà, c'est une piste sur remorque de 8 mètres de diamètre et l'installation prend en tout 1h30 et le démontage à pareil. Donc en totalité, ça prend 5 heures de mobilisation d'un terrain. Uniquement, c'est tout. Voilà, entre le démontage et démontage terminé, spectacle compris.
Donc en fait, il faudrait qu'il y ait plus de présentation.
Ouais, en fait, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à déplorer au niveau des services de la mairie, puisque l'autorisation avait été demandée dès le mois de mai par Madame Chaland, la propriétaire de ce cirque, enfin la présidente de ce cirque, qui est une école, hein, je vous rappelle, c'est pas une école, c'est pas un cirque professionnel, c'est une école. Comment se passe justement une demande pour installer une structure qui veut produire quelque chose?
Eh bien, c'est simple, hein, c'est une demande écrite à la mairie, traitée par la police municipale. Et quand la police municipale juge qu'il y a une demande qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est géré par les élus. Voilà. Donc là, si vous voulez, la police municipale nous a parlé effectivement de ce cirque qui devait s'installer. Et comme on ne savait pas où l'installer, ben on a refusé son installation.
Et justement... Donc il n'y a pas d'autre terrain que Méros, alors actuellement, c'est ce que vous dites.
Non, on peut, moi ça mériterait quand même d'être, d'être un petit peu étudié pour qu'on voit, là vous me parlez d'une, d'une remorque de 8 mètres.
Oui.
Donc c'est vrai que ça doit être quand même plus facile de la caser en ville, enfin sur la ville de Die, et peut-être qu'il y a d'autres possibilités que d'aller à Méros. Hein. Il y a peut-être aussi dans les demandes, peut-être de l'imprécision sur le volume de ce qu'ils ont besoin.
Justement, la demande n'était pas précise dans la mesure où la directrice de ce cirque a demandé s'il y avait un terrain à Die qui était susceptible d'accueillir cette troupe.
Mmh.
Voilà, donc elle n'a pas eu la réponse souhaitée.
Donc on peut inviter un petit peu toutes les structures à faire des demandes très précises.
Très précises, parce que si vous voulez, on en reçoit énormément des demandes. Hein. Tout au long de l'année, on en a énormément, énormément. Et donc c'est vrai que sur le nombre, si la lettre d'introduction, si cette personne avait dit c'est une école, si elle s'était présentée comme avec son projet et tout ça, peut-être qu'elle aurait été écoutée différemment.
Deuxième thème, alors là qui est vraiment très diwa, c'est ce festival intitulé Le cul dans l'herbe, dont il était prévu 4 soirées d'affilée et nous avons appris que la dernière avait été annulée. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi ?
Oui, alors si vous voulez, c'est un concours de circonstances un petit peu malheureux de leur part. D'abord, ils ont fait 2 représentations sans autorisation, mais bon, c'est pas... Ils nous ont envoyé un courrier pour nous demander l'autorisation de 4 dates, dont 2 étaient déjà passées, mais on a l'habitude, c'est souvent comme ça avec les artistes. Mais si vous voulez, par contre, le lieu où ils doivent s'installer...
Alors, on le rappelle, dans les jardins du Perrier.
Voilà, donc ce lieu a été vu par les services techniques au niveau de la sécurité, et il y a eu une autorisation... pour un maximum de 150 personnes. Et donc, si vous voulez, au moment où les personnes du cul dans l'herbe nous ont envoyé la demande d'autorisation, ils nous ont dit, eh bien, les 2 précédentes se sont d'ailleurs très bien passées, il y avait 400 personnes. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui nous a... Les 2 premières, c'était d'ailleurs pas trop mal passé, hein, si ce n'est que j'avais eu quand même quelques coups de fil en mairie et quelques coups de fil en gendarmerie pour dire qu'il y avait eu du bruit. Mais bon, on pourra y revenir. Sauf que moi, j'ai dit au service, attention, moi, je ne prends pas la responsabilité de continuer d'autoriser des soirées qui ne respectent pas la jauge qui était prévue au départ. Parce que si vous voulez, 150 personnes, c'est une certaine gestion. S'il y a 200, voire plus, là, on est dans une autre organisation qui n'est pas la même par rapport au parking, qui n'est pas la même par rapport après, pour les secours, s'il y a trop de voitures, on ne peut plus passer. Enfin voilà, si on est autorisé à 150, on ne fait pas rentrer 200 personnes. Donc si vous voulez, c'est uniquement sur ce point-là qu'on leur a dit, mais attendez, vous en avez déjà fait 2 à plus de 150. Là, on arrête les frais parce que vous ne respectez pas la règle. Si du matin au soir, pendant toute la période estivale et pendant toute l'année, on est trop laxiste par rapport à ça, le jour où il y a un pépin, on dira, mais pourquoi la commune a laissé faire. Alors le moment où on dit, eh bien, on ne l'autorise pas, c'est un moment difficile que j'assume, mais qui est forcément compliqué et qui est difficile pour les organisateurs à vivre. Hein. Alors j'espère qu'il y aura quand même des suites heureuses à tout ça et que dans les années qui viennent, ils vont pouvoir soit trouver un autre lieu plus grand, si vraiment ils veulent développer leur festival, peut-être faire plus de soirées, mais de le limiter à 150. Alors après, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu quand même quelques plaintes.
Oui, voilà. Voilà. On peut évoquer que
parce que si
le voisinage est compliqué dans le jardin du Perrier.
À Die, hein, ça résonne bien, là, tout le monde en profite. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que l'autorisation était, je crois, jusqu'à minuit. Et la buvette, peut-être jusqu'à 2h du matin. Là, c'était peut-être une anomalie et on ne recommencera pas comme ça.
Yves, tu voulais participer ou non ?
C'était juste pour dire que j'étais présent aux 2 premières soirées de ces culs dans l'herbe, pardon, et je n'ai pas vraiment vu 400 personnes ou 200 personnes par soirée, et même je trouve même que la buvette était fermée bien avant la fin du spectacle lui-même. Voilà, donc Je ne crois pas que ce soit vraiment lié à ça. Est-ce qu'il y a aussi peut-être empiètement des dates sur les vendredis de 10 ça,
non, je ah, pense pas du pas. Tout, pas du tout. Ah, non, non. Non, pas, alors non, vraiment pas du tout. Je ne sais même pas s'il y avait un vendredi dans l'affaire. Hein. Dans les quatre dates, est-ce qu'il y avait des vendredis ? J'en sais rien. Donc c'est pas du
Il
tout
en a
lié.
Eu un.
Ben peut-être, mais c'était pas du ouais. tout lié à ça. Non, non. Alors, n'imaginez pas que ça soit, ça puisse être lié à ça. Non. Le nombre de personnes, moi, je n'y étais pas. Hein. Donc, je peux pas le savoir. C'est eux qui me l'ont dit. C'est eux qui m'ont dit on est 400. Donc, je
c'est
veux dire.
Qu'on a toujours tendance à vouloir gonfler un peu ses prétentions.
Ben non, mais si vous voulez.
Alors, si c'est pas vrai, c'est dommage pour eux.
non, mais si vous voulez, c'est. Voilà, je me suis pas posé d'autres questions. Moi, j'ai dit attends, on les autorise à 150. Ils me disent qu'ils sont 400. Bon, je veux bien dire, après, ils m'ont dit 400 sur les deux. Voilà, mais ça faisait encore 200, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'y avait pas d'autre intention. Moi, c'était un problème de sécurité. Hein, je veux dire. Et puis après, de dimension de ce terrain par rapport à quelque chose de plus important. Parce qu'il y a un camion qui est venu pour livrer je ne sais quoi, qui s'est mis dans le fossé, qui a tout délabré. On a des petits ruisseaux, on a des petits fossés. Il a fallu un camion qui est venu le chercher, il n'a pas réussi. Il y a une grue qui est venue qui a aussi pas mal enfoncé les chemins. Donc, si vous voulez, c'est aussi tout ça. Si 150 personnes, c'est une logistique autour qui fait que le Perrier ne résiste pas à ça. Quoi, hein. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais alors, n'y voyez surtout pas d'intention. Avec les vendredis de 10, je ne savais même pas qu'il y avait un vendredi sur les dates.
Pour parler un petit peu de plus globalement de cette culture qui se développe dans le Diois, il y a un grand nombre d'associations et un grand nombre de festivités, surtout pendant l'été. Et alors là, j'en ai même fait moi-même les frais, hein, donc je vais parler d'expérience personnelle. Il y a eu visiblement une campagne de désaffichage sur dit pour retirer un certain nombre d'affiches qui ont été posées, la plupart effectivement, sur des espaces qui sont peut-être pas directement prévus. Y a-t-il eu vraiment une demande municipale à ce sujet ?
Exactement. Il y a eu par contre un petit loupé. J'ai demandé à ce qu'il y ait un nettoyage des façades, et non pas des affichages, mais un nettoyage de l'affichage sauvage. Et en mettant dans le journal du Diois d'ailleurs un article demandant aux associations qui veulent l'afficher d'en faire la demande à la mairie. Certains l'ont fait, sauf que la police a oublié de faire passer aux services techniques les arrêtés. Et quand j'ai demandé à ce qu'ils aillent nettoyer les façades d'affichage sauvage,
ils ont tout enlevé, même les coquettes marquées. Hein.
Ils n'avaient pas les arrêtés de la police municipale, donc ils ont tout enlevé. Donc voilà, là il y a eu un loupé certain.
Et vous ne pensez pas essayer de mettre de nouveaux panneaux, justement, officialiser l'affichage sur des panneaux nouveaux ?
Officialiser, en tout cas réglementer et trouver des solutions pour qu'il puisse y avoir de l'affichage. Mais
par exemple, le long de la palissade de ce chantier à la cathédrale,
pour le vivre maintenant depuis 4 ans, que quelle que soit la réglementation, et alors je suis d'accord avec vous, on peut l'améliorer et il faut l'améliorer, quelle que soit la réglementation, on aura forcément de l'affichage sauvage. Je ne vous parlerai pas des graffitis, qui est autre chose, mais qui représente quand même plus de 150 heures de nettoyage des services techniques.
Pour terminer sur cette partie culturelle, un point également sur l'association Écologie au quotidien, dont, d'après nos informations, il semblerait qu'elles aient, pour la session 2013, perdu les financements municipaux et le soutien quant aux locations des diverses salles municipales.
Alors, les subventions, effectivement, pour un certain nombre de raisons, on s'en est expliqué avec les personnes concernées, on ne renouvellera pas cette année de subventions. Ça ne les empêchera pas de pouvoir utiliser les locaux municipaux, c'est-à-dire les salles municipales. Mais avec des exigences cette année, pour voir si les choses se passent, s'ils tiennent compte de ce qu'on leur a demandé. Et s'ils en tiennent compte, on reverra peut-être notre position. Mais si vous voulez, voilà.
Alors peut-on connaître ces griefs et vos demandes ?
On n'était pas satisfait de l'utilisation des salles municipales et entre autres de la salle polyvalente. Certaines personnes avaient fait des photos et voulaient même les publier dans le journal en mettant la semaine de l'écologie, mais la semaine de la déchetterie, parce que autour de la salle polyvalente, il y avait effectivement un encombrement de choses. Alors ils sont s'en sont expliqués de leur côté, bien sûr. Et je reconnais qu'ils ont laissé les locaux propres. Mais ça donnait une image de la ville qui était vraiment pas souhaitable. C'est pour ça qu'on leur a dit, eh bien voilà, on arrête tout. Alors après, on s'en a expliqué. Ils m'ont envoyé des courriers en disant, ben voilà, nous on fera cette année, on fera comme ci, on fera comme ça. Bon, dont acte, on verra comment ça se passe l'année prochaine.
Alors, il n'est pas question de décision politique plus complexe, un conflit possible entre la mairie qui a son orientation et puis des écologistes, ou alors autour d'une programmation quelconque, nous c'est un peu les dires qu'on a.
Non, mais voilà, c'est toujours la tentation de certains qui peuvent dire, est-ce que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Non, je crois que c'est réellement l'image que ça donne à la ville que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que cette image-là perdure.
Et, d'accord. Mais, donc on peut imaginer que s'ils tiennent un petit peu vos demandes en 2013, en 2014, on repart...
On pourra revoir notre position, bien entendu.
D'accord.
Sachant quand même que voilà, la mairie a pris cette position-là, mais d'autres institutions qui financent ou qui sont censées porter le financement ont aussi pris d'autres dispositions qui vont dans le même sens, mais pas pour les mêmes raisons.
Yves ?
Oui, on va parler de finances aussi par rapport à l'ADES. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le CARSAT, c'est-à-dire l'organisme régional à Lyon, a décidé de couper sérieusement les subventions ou les budgets pour l'ADES dans la Drôme, ce qui mettrait en danger peut-être une dizaine de postes et voire une centaine de personnes qui vont se retrouver seules dans les fins fonds du DIWA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il y a une aide possible ?
Alors, si vous voulez, sur le devenir de l'ADES, bien entendu que la mairie dit, comme les autres municipalités, on est très sensible à son maintien et on peut que se réjouir du travail qui est fait au niveau des personnes qu'on arrive à maintenir à domicile grâce à l'ADES. Alors après, se posera réellement concrètement le problème de si tout le monde, par économie, resserre son budget... il est certain que tout ne pourra pas tomber sur les communes. Bien sûr qu'on regardera avec bienveillance le devenir de l'ADES. Aujourd'hui, j'ai pas encore rencontré la directrice de l'ADES sur ce ni les présidentes sur ce dossier-là, sur cette affaire-là. Mais j'en ai entendu parler, bien naturellement.
Quand vous parlez de ces financements, c'est que de toute façon, la mairie de Die ne pourrait pas à elle seule faire tourner l'ADES. Et donc, c'est de l'ordre de financement qui sont trop lourd.
Même au niveau de la communauté de communes, je suppose.
Ça sera compliqué. Mais je veux dire, je crois qu'il faudra que l'ADES nous établisse exactement l'ampleur de sa misère. Pour pouvoir voir comment on peut les aider.
On est passé à l'ADES et on n'avait pas tout à fait terminé ce volet culturel. Il y a un dernier point. Nous avions reçu il y a quelque temps Harold David, directeur de l'association Festival SOS et du Théâtre de Die. Et juste en deux mots, il avait été évoqué cette problématique de finances, voilà, d'un théâtre municipal, et que pour eux c'était assez compliqué de le faire vraiment tourner. À l'époque, il y avait Jacqueline Schrimpf, il me semble, qui était avec eux et qui avait effectivement dit un peu le désarroi de la municipalité à pouvoir donner plus de crédit au théâtre municipal. Où en est ce débat ?
Je crois que ça a été effectivement une période un petit peu mouvementée et il y a eu beaucoup d'émotions autour de ce problème-là. Heureusement, les demandes de l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die ont pu être entendues lors du deuxième passage dans le cadre des subventions du CDDRA. Aujourd'hui, le problème jusqu'à la fin de l'année du financement est réglé. Après, la culture a un coût et la ville de Die ne sera pas de taille à pouvoir faire face toute seule au coût d'un théâtre de la qualité de celui qui est en train de la qualité de ce qui est en train de se mettre en place à Die. Alors moi, j'ai sonner un petit peu les sonnettes d'alarme, j'ai tiré les sonnettes d'alarme en disant il faudrait peut-être dans le temps, pas demain, mais il faudrait quand même dans le temps qu'on accepte l'idée de se pencher sur ce problème-là et de dire est-ce que ce n'est pas un problème intercommunal, tout simplement, quoi. Je crois, est-ce que la culture a dit on n'est pas gros dans le Digoin, on est 11 000, a dit on est 4 700, faire porter le théâtre de Die sur 4 700 personnes, financièrement, alors que ça profite à 11 000 et c'est très bien, je pense que ça serait bien de l'imaginer d'imaginer le financement sur une assiette plus large et qui permettra aussi donc d'avoir des subventions un peu plus conséquentes qui débloqueraient autant après la région qui aujourd'hui dit ben, la ville de Die ne donne pas assez. J'ai dit, attendez, on ne donne pas assez, on donne beaucoup. Maintenant, s'il faut donner plus localement, ça ne pourrait être que dans le cadre de l'intercommunalité.
Nous allons terminer avec ce dernier point, puisqu'il faut maintenant vous libérer, la question de la cantine. Pour rappeler un petit peu les faits, la cantine de la maternelle de Chabestan est soumise à une fréquentation assez élevée. Et seulement, la cantine n'est plus adaptée aujourd'hui à accueillir les effectifs de l'école maternelle. Il a donc été émis par la municipalité la possibilité de la fermer aux enfants de moins de 4 ans. Ce sur quoi un certain nombre de gens, un collectif de parents s'est un petit peu soulevé. Alors aujourd'hui, un petit bilan sur ce sur quoi vous avez avancé, vous, municipalité, et quelles vont être en tout cas les solutions pérennes d'avenir envisagées.
Oui, donc si vous voulez, c'est vrai que là, on a été aussi dans une période un petit peu tendue. C'est un problème de sécurité. Je crois que j'en ai beaucoup parlé aux parents concernés et je crois qu'ils ont entendu. On avait un problème là aussi de nombre d'enfants qu'on peut autoriser simultanément dans les locaux de la cantine. On le dépasse. Alors on ne le dépasse pas pendant tout le temps de la cantine, mais on est obligé de faire deux services. Et au moment de la jonction des deux services, on a un moment où on dépasse de 30 ou 40 enfants l'autorisation des normes de sécurité. L'équipe de municipale m'a alerté sur ce point-là. Et donc, on a dit, ben, si les normes de sécurité sont plus bonnes, eh bien, on va prendre des dispositions pour qu'elles le deviennent. Donc, si vous voulez, on a à peu près, pour la maternelle, il y a 20% de moins d'enfants sur 10 ans. À la maternelle, il y en a 7% de moins. Et à la maternelle, on a 30% d'enfants en plus à la cantine. Donc on voit bien que contre toute idée, il y avait moins d'enfants à l'école, mais on a beaucoup plus d'enfants à la cantine. Donc c'est un problème numérique à gérer. Donc si vous
et
voulez,
plus social, c'est-à-dire que de plus en plus de gens travaillent le midi, c'est un vrai service, c'est intéressant.
On va dire que c'est de plus en plus dans la façon de vivre maintenant des gens. Il y a un fait de société où aujourd'hui, les parents ont besoin de ce service de la cantine. Donc si vous voulez, on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans les autres villes et on s'est aperçu que la solution que la plupart ont trouvée, c'est que jusqu'à 4 ans, on ne prend pas les enfants à la cantine. Donc on a regardé et on s'est dit si on met cette limite-là, on rentre dans les normes pour la sécurité. Donc on a pris cette décision. Alors bien sûr, d'où
la levée de bouclier.
D'où beaucoup d'émotions de la part de tout le monde. Alors j'ai dit quand même, j'ai rencontré très fréquemment les parents, hein, quand même. On s'est rencontrés souvent. J'aurais dit, on ne laissera personne dans la rue, bien sûr. Hein. On essaiera de trouver des solutions pour tout le monde. Et donc à partir de la rentrée prochaine, on va proposer aux enfants qui n'ont pas 4 ans, on va leur proposer un accueil de style de crèche. C'est-à-dire que c'est les parents le matin qui amèneront le repas de leur enfant et le repas sera donné par du personnel de la municipalité, mais dans une salle indépendante de celle de la cantine. Et parallèlement, on va travailler sur un projet d'une construction, d'un aménagement d'un local sous la cantine qui pourrait peut-être convenir, on va faire les études, qui pourrait peut-être convenir pour tous les enfants de maternelle. Et ça nous permettrait de réaménager la cantine actuelle, la salle à manger actuelle, pour en faire quelque chose de plus agréable pour les enfants de primaire. Donc si vous voulez, dès le mois de septembre, on va essayer de mettre ça en place. Et je me suis engagé de continuer une fois par mois au moins, de réunir les parents que ça intéresse, pour les tenir au courant de l'avancée des études, voire des travaux.
Donc, si vous voulez, y aura bien, au final, un agrandissement du bâtiment et de sa capacité d'accueil du bâtiment.
Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, dans la mesure où celui qu'on a ne peut plus accueillir tout le monde, on n'a pas d'autre solution que d'en faire un autre ou d'en aménager un autre.
Eh bien, on va s'arrêter là. Yves, pas d'autres questions ?
Non, je pense que ça reste dans l'ordre du détail, ça peut attendre.
Voilà, eh bien, ça attendra peut-être une prochaine invitation.
Eh bien, écoutez, avec plaisir, quand vous voulez.
Monsieur Bergina, maire de Die, merci d'avoir été présent avec nous. Yves, encore une fois, merci et puis à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Interview.